Bonsoir Rod Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Arribelé et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche Christo et Jeanne-Claude, la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Et puis Mexique, 1900-1950 au Grand Palais. On évoquera aussi plus rapidement Closer Come Closer de Kim Jong-ik au Musée d'Art de Séoul et les origines de Bernard Venet à l'espace de l'art concret de Moinsartou. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour y débattre d'un sujet bien sûr en lien avec le champ artistique dont nous parlons ce soir, et puis bien sûr également des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous nous rendons pour ouvrir cette émission dans un haut lieu de l'art en France, la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, où se tient jusqu'au 27 novembre une exposition consacrée à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes de Land Art sans doute le plus célèbre du monde pour ses interventions aux quatre coins de la planète, du Pont-Neuf à Paris à Miami, du Reichstag à Berlin, à Central Park à New York. Seulement 22 projets réalisés, mais beaucoup d'autres, 37, dit Christo, qui n'ont pas vu le jour, ou pas encore, faute d'autorisation la plupart du temps, comme la plus grande, prévue à Abu Dhabi, peut-être un jour, qui serait la plus grande œuvre jamais réalisée, serait plus grande que la pyramide de Khéops, figurez-vous. Le point de départ de cette exposition à Saint-Paul-de-Vence, c'est aussi un projet dessiné il y a 49 ans et devenu réalité. Arribelé se replonger dans des notes, dans des synthèses, dans je ne sais quoi, les écrits qui sont sous ses yeux, peut-être ses propres articles, allez savoir, parus dans Le Monde. Vous vous lisez parfois, Arribelé, oui ?
Il m'arrive de me relire, surtout.
Ah, bon.
Il m'arrive de me relire, ce qui est d'ailleurs, dans le cas de Christo, assez réjouissant, parce qu'on comprend à quel point ces gens, Jeanne-Claude est décédée désormais, mais je pense qu'elle est toujours un peu là. Jeanne-Claude et son époux Christo, et réciproquement, quand ils faisaient un projet, ça pouvait durer longtemps. Et là, je retombe sur une interview que j'avais fait d'eux, vous n'étiez pas né, ou à peine, et ils me parlaient déjà du mastaba, et ils me disaient à quel point c'était ancré depuis leur tout premier grand travail connu par nous autres Français, puisqu'ils avaient barré la rue Visconti en 61-62 avec des bidons de pétrole. Ils avaient appelé ça rideau de fer, puisque Christo venait de l'au-delà du rideau de fer à l'époque. Et c'est là qu'est née l'idée du bidon en général, et puis un peu plus tard du mastaba en particulier.
Alors mastaba, définition, explication.
Alors définition par Christo, à l'origine en arabe c'est un banc, et ça désignerait aussi les premières pyramides à degrés. Maintenant je me méfie énormément parce que j'ai reçu un jour une lettre d'une gentille lectrice qui m'expliquait que c'était pas du tout ça. Je voudrais pas en recevoir une seconde. Mais bon, les premières pyramides à degrés, on a tendance à appeler ça un mastaba.
Voilà. Vous confirmez, Frédéric Bonnet ?
Oui, oui, un monument funéraire qui a, effectivement, qui est une pyramide à degrés.
Très bien.
Un empilement de bancs.
Un empilement de bancs.
Alors, bidon, là, en l'occurrence.
Alors, vous dites bidon, on dit souvent baril pour le pétrole, mais c'est comme vous voulez.
On n'a pas les mêmes valeurs.
Oui, bidon de peinture, parce que ça existe aussi.
Eh bien, il en fait également.
Ben oui.
Eh oui. Ouais. Dans son exposition, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en dehors de ce prototype, alors, il faut aller à la fondation, très bel endroit, arriver dans la cour intérieure dite Giacometti, et à la place des Giacometti habituels, là, on tombe sur une pyramide à degrés ronds. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est rond, de bidons, ou de fûts, c'est selon, qui est assez vaste et assez haute pour qu'on se sente un tout petit peu écrasé. Rassurez-vous, ça tient très bien, ils ne vont pas se mettre à rouler, mais ça emplit tout l'espace et au-delà. Il y a très très peu de circulation possible, donc on est un peu quand même, on sent la monumentalité possible du projet. Et quand on va dans les salles, on comprend la logique de ce travail depuis 1960, il a 80 ans aujourd'hui, je crois, Christo. Il continue à frétiller comme quand il était jeune, et il a décidé de le faire, ce truc, exactement comme il a décidé de faire le projet Arkansas. Ça fait partie de ses projets non réalisés, mais... comme il n'est pas pressé, visiblement, je souhaite qu'il y arrive parce que c'est toujours assez fantastique ce genre de jeu. À ceci près que la mastaba qu'il prévoit pour un désert des Émirats Arabes Unis, qui serait le projet ultime, il y aurait deux différences avec ses projets habituels. Le premier, c'est qu'il serait pérenne. Ses ingénieurs, me disait-il à l'époque, lui pensent que si c'est bien entretenu, ça peut durer 4 ou 5 000 ans. Tous les autres projets de cristaux, au bout de 15 jours, sont démontés. Et la deuxième, c'est que ce ne serait pas lui qui le financerait, ce seraient les Émirats. Tous ces projets ont été autofinancés et ça a été un des premiers artistes à s'autoproduire de cette façon-là. C'est assez remarquable comme mode de fonctionnement économique. Il est totalement libre.
Alors, il faut quand même parler de cette impression qu'on peut avoir, en effet, Frédéric Bonnet, en découvrant d'abord ce mastaba, parce que donc Christo est allé à la Fondation Mac sans doute plusieurs fois dans sa vie, mais peut-être la première fois en 67, quand il, c'était un peu l'ouverture, ou c'est cette année-là ou l'année précédente, l'ouverture de la Fondation Mac,
enfin 64.
Bon. 64, bon, 3 ans avant. Donc c'était les débuts de la Fondation Mac, il a vu cette cour intérieure, il a fait ce dessin. Et ce dessin est devenu aujourd'hui une réalité, parce que c'est un lieu que tous les amateurs d'art connaissent bien, un lieu dans lequel on va le plus régulièrement possible. Quel effet ça vous a fait, cette œuvre de Christo ?
Mais ça m'a fait un effet assez surprenant et intéressant. Surprenant parce qu'effectivement, Harry a raison de souligner qu'il y a peu de voies de dégagement.
Elle n'est pas si grande, cette cour, d'ailleurs.
Non, la cour n'est pas si grande. Et par contre, Christo a, lui, très très bien pris la mesure de la cour, qui n'est pas si grande. Et très habilement, il a laissé juste ce qu'il faut pour se déplacer autour. Et il a rempli, il a vraiment fait, c'est une occupation de l'espace. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt bien, parce que il n'a pas cherché à jouer la demi-mesure pour faire un truc un peu chic, qui va laisser quand même du volume, et en même temps c'est pas du tout irrespectueux vis-à-vis de l'architecture environnante. Évidemment, les courbes des barils répondent absolument bien à l'aspect curviligne, à certains aspects curvilignes de l'architecture de Certes. Et je trouve que Christo a vraiment bien géré son affaire en termes de volume. Et le fait que le spectateur puisse finalement prendre peu de recul par rapport à la chose est assez intéressant, parce que ça renforce évidemment le caractère monumental, qui est quand même une des visées d'un projet comme celui-là, hein, puisque en se référant d'emblée au mastaba, on est dans l'architecture, on est dans une dimension monumentale, et voilà, comme le disait aussi Harry très justement, on ne se sent pas écrasé, mais c'est quand même là, c'est quand même très très présent. Et je trouve qu'a été bien joué aussi le fait d'avoir des surfaces, les deux côtés, donc où on voit les côtés des barils sur les deux petits côtés, ne sont pas alignés. Les barils sont un petit peu décalés les uns par rapport aux autres. Donc quand vous y allez en plein été, qu'il fait beau et qu'il y a beaucoup de lumière, en plus de ça, les surfaces sont vraiment laquées, rutilantes. Ça crée des jeux de perspectives et d'animations colorées qui sont pas inintéressants et qui sont aussi une des recherches de Christo. Sincèrement, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail de savoir pourquoi il a choisi telle ou telle couleur. Là,
alors justement, il y a quand même un jeu de couleurs, plusieurs, enfin nombreuses couleurs pour ces barils.
Ah oui, absolument. Oui, oui.
Non, pour compléter la description. Hein.
Oui, il y a plusieurs couleurs. Il y a des rouges, il y a des teintes brunes, il y a voilà, orangé. Et les grands côtés des barils sont rouges et bleus. Mmh. Mais pour ce qui est de ces petits côtés du mastaba, bon, j'ai pas pu parler avec Christo, donc je ne sais pas exactement ce qu'il a amené à choisir ces coloris-là, mais en tout cas, le choix des coloris dans ce type de projet n'est jamais anodin. Par exemple, le projet de cette fameuse, ce fameux mastaba que Christo envisage de construire à Abu Dhabi depuis 1977, là, ce serait vraiment des teintes...
Harry Bellé nous montre des images à chaque fois du petit catalogue. Jaune-orangé, on est quasiment dans le pixel du coup aussi.
Exactement, en rapport avec le désert et la lumière du désert, évidemment.
Oui. Et là, les proportions sont absolument folles. Je crois que c'est 150 mètres de long. Enfin, non, je ne veux pas dire
150 mètres de haut, 410 000 barils.
Le projet. Oui, bon, voilà, pour donner un petit peu la mesure de la chose, en effet. Harry Bellé, alors, qui nous fournit en images, ce qui est toujours bien à la radio, évidemment, évoquait le fait que l'autre axe de l'exposition, c'est quand même assez logiquement l'utilisation des barils de pétrole dans l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude. Et c'est effectivement une utilisation ancienne, non pas systématique, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a la toile qui joue un grand rôle chez eux, mais on peut dire que ce sera les deux grands éléments de leur palette, la toile, celle qui emballe, et puis le baril, celui qui se...
Ah, il a beaucoup emballé, pose, oui, mais...
Emballé ou déployé.
Oui, mais alors à chaque fois, c'est des projets... ce qui me fascine, c'est le nombre de gens que ça fait intervenir, le nombre d'administrations à qui ça fait mal à la tête.
C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de projets qui ne sont pas
Oui, mais ça fait partie du projet, dit-il. Et ça fait même évoluer les projets, ajoute-t-il. C'est-à-dire que dans le cas de la rivière Arkansas, par exemple, il y a des soucis avec un mouflon très local. Et donc, il négocie avec les associations écologistes pour savoir comment on peut mettre justement ce mouflon en valeur. Enfin, tout ça est très, très pensé. Et c'est vraiment des bureaux d'ingénierie qui sont... on n'est pas là devant l'artiste dans sa chambre de bonne en train de réaliser son chef-d'œuvre. Les premiers barils ou bidons, on est au tout début des années 60. Il y a des projets qui ont été faits en 68 à New York. Il a même envisagé de barrer le canal de Suez. avec ça, c'est pas fait, ça, je sais pas pourquoi.
On se demande, ouais.
Avec 500 000 barils. Mais quand il présentait son projet à la Fondation, il y a un très joli dessin, comme ça, du mur de barils de la rue Visconti, qui s'appelait Iron Curtain, c'est le rideau de fer. Et il disait, ça pourrait servir, on pourrait utiliser la méthode pour sécuriser les chantiers. C'est écrit en dessous de la photo. Alors évidemment, c'est une plaisanterie de sa part. Il vient juste d'arriver d'Europe de l'Est. Mais il cherche ce qui est fantastique avec les projets de Christo, c'est qu'il a démontré, un, qu'il pouvait les financer tout seul, deux, que ça rapportait énormément d'argent aux villes qui les recevaient. Chaque fois qu'il en a créé un, les retombées économiques étaient de l'ordre de 1 pour 4. C'est pour 1 euro dépensé, 4 euros de généré pour les marchands de sandwich. Pas de photographie, ça c'est interdit. Mmh. Ils s'en réservent, c'est avec ça qu'ils financent les cartes postales, etc. C'est avec ça qu'ils financent le projet d'après. Mais ce sont des projets extrêmement rentables. Je crois que ça a été le premier artiste contemporain à montrer que l'art pouvait aider l'économie. On pense toujours à l'inverse. Je crois que lui a été un des tout premiers à montrer que ça pouvait être positif pour une ville que d'accueillir un projet de Jeanne-Claude et Christo.
Sur le reste de l'exposition, Frédéric Bonnet.
Mais l'exposition, elle est intéressante dans la mesure où elle pose... cette exposition, c'est deux obsessions mêlées. C'est l'obsession du mastaba et l'obsession du baril, ou en tout cas du contenant circulaire, parce qu'il y a aussi des pots de peinture.
Ouais.
Et ce qui est formidable dans l'exposition, c'est que il y a beaucoup de ces projets pas réalisés. Alors, il en a fait une multitude, hein, entre les murs de baril et les mastabas. Il avait de quoi recouvrir l'Europe et la Terre entière, pratiquement. J'exagère, mais à peine. Mais entre la fin des années 60 et le début des années 70, il en a développé une quantité considérable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même au-delà, heureusement, parce que sinon on a quand même assez vite fait le tour de la question, même s'il y a de nombreux projets, et surtout je ne suis pas persuadé que ça aurait été palpitant. Ce qui est palpitant, c'est par contre de voir de très très belles sculptures, dont certaines sont très anciennes, 57, 58, qui sont les premières pièces dans lesquelles il utilise justement ces contenants, barils, pots de peinture, où dès cette époque-là aussi, il utilise de la toile pour emballer, avec un rapport d'entrée de jeu assez intéressant, si ce n'est ambigu, quant à la temporalité, parce que il n'hésite pas à utiliser des matériaux qui sont déjà rouillés, qui ont déjà vécu, à inscrire des traces d'usure tout de suite sur les sculptures. Ce qui fait que aujourd'hui, on est en 2016, on voit ces œuvres qui ont été produites il y a 70 ans. On est un petit peu... on a évidemment une trace du temps qui est passé, mais... si tant est qu'elles aient été convenablement conservées, ces œuvres n'ont pas dû beaucoup évoluer dans leur look, dans leur aspect, dans leur finition. Et je trouve ça assez intéressant de voir que Christo s'est emparé finalement d'une forme assez banale, comme l'ont fait d'autres artistes de son époque, hein, ce qui amène Restagny à théoriser le nouveau réalisme quelques années plus tard, en 62. Mais Christo s'empare de fragments du réel et surtout s'empare de choses très très secondaires pour en tirer un fort potentiel esthétique en défiant même complètement l'époque dans laquelle il est, parce que finalement, regarde ces choses-là, c'est pas vraiment datable, on sait pas ce que c'est.
À ce propos de la temporalité, d'une certaine façon, est-ce que, vous qui connaissez bien le dossier visiblement Henri Bellet, est-ce que Christo a imaginé et pense que ses œuvres pourront être réalisées une fois qu'il ne sera plus là ?
Non, à part le mastaba qui doit être la seule pérenne, toutes les œuvres de Christo sont montées, installées, visitées et démontées dans un laps de temps qui excède rarement 3 semaines.
Oui, mais les projets qui ne sont pas encore réalisés, qui pourraient l'être, pourront l'être une fois qu'il ne sera plus là ? Est-ce qu'il a prévu une chose comme ça ?
Alors techniquement, c'est possible.
Oui, parce qu'il
a une armée d'ingénieurs qui travaillent avec
lui. Est-ce qu'il a envie de cela ? C'est ça ma question.
Non, je crois que vraiment le processus fait partie de l'œuvre pour lui. D'ailleurs, si quelqu'un acceptait tout de suite une de ses œuvres, je crois qu'il ne la ferait pas. c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour lui. C'est vrai que c'est une question qu'on ne lui a jamais posée. Je vous promets que la prochaine fois que je le croise, je le ferai. Mais ça me paraît peu probable.
Parce qu'on peut imaginer. Hein.
Cela dit, il parlait de ses difficultés, du peu d'œuvres créées par rapport à ses projets à un réalisateur de cinéma qui disait, mais mon Dieu, si j'en avais fait autant.
Ouais. Oui, ça c'est des projets de réalisateurs de cinéma, c'est encore une autre affaire. Il y a un catalogue qui a été édité pour l'occasion par la Fondation MAG. Moi, c'est pour l'instant ce que j'ai vu. Ah ben oui, vous avez vu l'expo, moi j'ai le catalogue. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Ça m'a donné encore plus envie d'aller, mais jusqu'à quand ? Jusqu'au 27 novembre pour aller découvrir ce mastaba dans un lieu que j'aime tant, cette Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. En tout cas, cette exposition Christo et Jeanne-Claude, elle se poursuit donc jusqu'au 27 novembre. Et il y a un catalogue qui est édité par la Fondation MAG. Renseignez-vous.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure du Mexique, mais aussi de la Corée du Sud, et même de Bernard Venet. Avant cela, on suit Lucille Comeau dans le Petit Salon. Alors ce soir, j'apprends que dans le Petit Salon, les fauteuils sont des faux.
Sur la couverture du dernier numéro du Journal des Arts, on peut lire le gros titre suivant, après les faux meubles, les faux tableaux. Je ne sais pas vous, cher Arnaud, mais moi j'aime beaucoup les histoires de faux, je trouve ça extrêmement romanesque.
Aussi.
Et depuis que de pareils scandales éclaboussent divers achats et transactions cette année, je lis tout. Je lis tout, mais je ne comprends pas tout. Il faut dire que la question est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas seulement un faussaire malin qui peint un tableau flamand du 16e dans sa chambre et qui le vend à un gros bourgeois dupé. Non, il y a des tas de commissions, des intermédiaires, des experts plus ou moins missionnés, des institutions publiques et des enchères privées. Alors, je vais essayer de résumer les choses de manière claire et rapide. D'abord, l'histoire des meubles. Il y a plusieurs affaires, dont la première cette année est une histoire de chaises vendues comme authentiques pour meubler les salons du château de Versailles. La seconde, qui est venue notamment jeter le soupçon sur la Biennale des Antiquaires au mois de septembre dernier, est une affaire de commode. Une commode Oppernote, c'est le nom de l'ébéniste, aux armes de Colbert, une commode dont on a révélé après une série d'analyses que le bois daterait probablement des années 80, les années 80 de 1900 bien sûr. Sauf qu'entre-temps, le Grand Musée du Louvre l'avait acquise après un appel aux dons conséquents et classée trésor national. Venons-en maintenant aux faux tableaux. C'est une affaire qui court depuis des années déjà et qui concerne principalement une Vénus de Lucas Cranach, datée de 1531, et un portrait de Sals, daté de la fin de sa vie, donc des années 1660. Ces deux tableaux sont très probablement des faux, vendus pour des sommes conséquentes, elles aussi par l'intermédiaire d'un monsieur italien, Giuliano Ruffini, et par Sotheby's, l'un au prince du Liechtenstein, l'autre au prince du Liechtenstein, l'autre à un collectionneur de Seattle. J'espère que vous suivez toujours. Si ces petites histoires restaient du domaine du privé, on en parlerait sans doute moins. Le problème, c'est le rôle que joue dans le jeu des institutions publiques. Le portrait de Hall, c'était en effet, après un prêt, accroché au Metropolitan à New York, ça la fout un peu mal. Et surtout, il avait été authentifié par un conservateur du Louvre, nous y revoilà au Louvre, Blaise Duclos, qui avait lui-même essayé de convaincre le musée du Louvre de l'acheter. Alors quand on essaye de démêler cette pelote, on se demande comment il est possible que des commissions neutres, c'est-à-dire qui ne dépendent ni des grandes maisons d'enchères, ni payées par des collectionneurs privés, ni par des institutions publiques, mais je ne sais pas, qui pourraient par exemple dépendre d'universités et qui est une autorité mondiale, statue sur la valeur des œuvres d'art avant toute transaction, qui plus est lorsqu'elle se fait avec des fonds publics.
Ah oui, mais alors là, il y a tellement... Oui, les fonds, c'est ça là qui est vraie question, l'argent. Il faut chercher l'argent à révéler dans ces histoires-là. À qui profite le crime ?
Oui, l'argent, il y en a. Ah oui. Grâce à Jean-Jacques Ayagon, qu'on n'en remerciera jamais assez, les musées ont désormais la possibilité de faire les acquisitions payées par d'autres au titre du mécénat.
Loi de 2003.
3, 4, on s'en fout.
D'accord, mais, j'ai encore dit une bêtise, c'est
mais
ça ?
Mais non, c'est pas très grave. Simplement, ça leur donne une sorte de liberté de penser
oui.
Qu'ils n'avaient pas avant. Avant, c'était très simple. Quand une œuvre exceptionnelle arrivait sur le marché, les musées français savaient que ce ne serait pas pour eux. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une petite possibilité de l'acheter, voire une grosse. Et ils classent trésor national le temps de réunir les fonds, ce qui a été le cas des meubles de Versailles dont on parlait. Et en attendant, on ne peut pas les sortir du territoire. Et donc, on a une petite chance de réunir les sous pour les acheter. Malheureusement, il semblerait que... Cette volonté de retenir, et ce qui est très très louable, de retenir les œuvres dans nos musées à nous, s'applique aussi à des œuvres qui sont un peu trop fraîches, quoi, voire pas tout à fait sèches. Alors, en fait, le meuble en question n'a pas été acquis par le Louvre, mais le Louvre voulait vraiment l'acheter, mais c'est pas eux qui l'ont acheté, personne l'a acheté pour l'instant. C'est pas... Versailles, si. Versailles a acheté plusieurs meubles classés trésors nationaux, alors, dont il semblerait, contrairement à ce qu'on m'avait dit à une époque, que le laboratoire des musées de France ne les a pas analysés. C'est la directrice du musée de Versailles qui me l'avait affirmé. J'ai de la chance, je ne suis pas le seul à qui elle l'a affirmé, mais aujourd'hui, le laboratoire dément, je ne sais pas pourquoi. Bref, les conservateurs de musées sont très embêtés.
On se demande pourquoi ils ne l'ont pas analysé, justement.
C'est une excellente question. On se demande aussi pourquoi, là, quand la directrice des musées de Versailles croit utile de dire à deux journalistes différents que ça a été fait alors que ça n'était pas le cas. Je pense qu'ils sont très embêtés.
Oui, mais c'est quand même très embêtant. Mais c'est vrai que ces attributions ou ces experts ou ces...
Mais bon. Vous savez, les experts... Mon Dieu. Vous en avez autant que d'historiens d'art. Vous pouvez même être expert. C'est qu'en France, les seules personnes qui n'ont pas le droit de faire l'expertise, ce sont les conservateurs des musées nationaux. C'est donc, a priori, les seuls qui devraient savoir n'ont pas le droit d'expertiser, sauf sur demande judiciaire. Donc oui, je peux être expert demain d'un ébéniste dont j'ai pas entendu parler la veille. Oui, c'est possible.
Oui, parce qu'on attribue.
Alors là, par contre, dans le cas d'Emmanuel de Versailles, c'est beaucoup plus drôle. C'est que l'expert le plus actuellement regardé, qui vient juste de sortir de prison préventive, est aussi le plus grand spécialiste mondial des chaises 18e. Donc là, ça devient un peu compliqué. Si vous faites appel à un expert et qui se trouve avoir peut-être été celui qui a commandité les meubles, ça devient très compliqué.
Ouais.
Mais dans le cas des tableaux, c'est encore plus drôle. Dans le cas des tableaux, alors ça, c'est notre confrère Vincent Neuss du Journal des Arts qui est à fond là-dessus. C'est beaucoup plus drôle parce que on a découvert très récemment que ces tableaux étaient douteux, pas parce qu'ils sont mal peints, au contraire, c'est quasiment parfait, ça a échappé à peu près, mais parce que les provenances sont bizarres. Et surtout, les tableaux sont très nombreux et d'artistes très différents. Donc, s'il y a un seul faussaire, ce type est génial. Ce type est génial parce que, d'abord, le faussaire de génie, j'en vois un tous les deux ans, un faussaire de génie à peu près, mais ils sont tous en prison où ils l'ont été. Lui, il ne l'est pas encore. Donc ça, pour moi, c'est un signe de génie, c'est de n'avoir pas encore été attrapé. Et puis ensuite, il est capable de copier a priori n'importe quoi. Et avec beaucoup de talent, semble-t-il.
Et puis s'il est vraiment génial, on ne saura jamais qui c'est.
Oui, s'il est vraiment génial, on ne saura jamais qui c'est. Cela dit, j'ai cru comprendre que ça fascinait, c'est pas bien. Ça n'est pas bien. Faire des faux, c'est pas bien. Il faut quand même le répéter. C'est pas bien, pas seulement parce qu'on trompe des pauvres conservateurs qui vont ensuite se demander s'ils arriveront jusqu'à la retraite, pas seulement parce qu'on trompe des pauvres collectionneurs qui, de toute façon, ont perdu de l'argent, mais ils s'en foutent, ils en ont beaucoup. Non, c'est pas bien pour les artistes. Parce que si on pense qu'il y a autant que Corot est un mauvais peintre, c'est parce que la moitié des tableaux qu'on a de Corot sont des faux. Ça, c'est pas bien.
Frédéric Bonnet, cette question.
Le problème principal, c'est qu'on va rentrer de nouveau dans l'ère du soupçon, et que ça, c'est un véritable problème, parce que on est quand même censé, quand on est face à du mobilier ou face à des œuvres d'art conservées dans des institutions nationales, qu'elles soient françaises ou étrangères, peu importe, c'est pas le problème n'est pas spécifique à notre douce patrie, c'est que on est censé faire face à un original. Il se trouve que là, on commence à avoir quelques doutes sur certaines choses et que on a peut-être commencé à tirer le fil de la pelote. Je comprends que Blaise Duclos au Louvre reste muet quand on essaye de l'interroger sur le sujet, parce qu'il ne va pas se sentir très très bien, comme d'autres. Hein, quand on a vu l'opprobre qui a été jeté sur Werner Spiess à propos de l'affaire du Max Ernst il y a quelques années, où il avait été condamné en première instance à en être relaxé en appel 2 ans plus tard. Mais bon, il a terminé sa carrière, carrière d'un grand conservateur qui a été directeur du Musée d'Art National au Centre Pompidou. Il a fini sa carrière dans l'opprobre avec une tâche quand même indélébile. Donc même s'il a été blanchi en appel par la justice, bon, il a quand même eu ce truc-là qui a littéralement terni la fin de sa carrière. Je pense que il y a beaucoup de conservateurs qui doivent se sentir pas hyper à l'aise vis-à-vis de ces sujets-là. On va voir comment ça se développe, s'il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Mais enfin voilà, c'est pas réjouissant.
Je voudrais revenir sur le cas de Werner Spiess, qui est un type pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Il a fait le catalogue dans les années de Max Ernst. Il a identifié 5000 Max Ernst. Il a rejeté 400 qu'il estimait faux. Il s'est trompé sur 7 en 40 ans de travail. Je pense que statistiquement, ça va. Le tableau de Max Ernst en question, il y a eu 4 personnes qui l'ont vu exposé au Metropolitan Museum de New York dans une rétrospective Max Ernst. Le premier, évidemment, c'était Werner Spiess. Le deuxième, c'était Philippe de Montebello, le directeur du Met, qui avait quand même vu quelques tableaux dans sa vie. La troisième, c'était la veuve de Max Ernst, Dorothea Tanning. Ils l'ont tous trouvé très, très, très beau. Le quatrième, c'était moi. Je l'ai trouvé très beau aussi.
Lucille Como.
Je me posais la question aussi du titre de l'article dans le Journal des Arts. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce qu'il y a les mêmes enjeux derrière un faux meuble et un faux tableau? Est-ce qu'on peut vraiment comparer ce type d'affaires? Est-ce que c'est les mêmes enjeux? Est-ce que c'est pas plus grave un faux tableau qu'un faux meuble, qu'une fausse commode?
Je vois pas pourquoi ça serait plus grave ou moins grave d'un côté ou de l'autre. Il s'agit d'un faux, il s'agit d'avoir trompé des conservateurs, de tromper les publics, de tromper l'argent public, puisque c'est encore une fois c'est des fonds qui sont mis pour acheter un objet ou une œuvre d'art sur lequel in fine il y a tromperie. Donc non, je crois pas qu'il y ait une distinction à faire.
À révéler.
Je crois pas encore une fois, les premières victimes, ce sont les créateurs, ce sont les artistes. Ce qui me fascine, c'est que quand on saisit des faux sacs de luxe, ou des fausses montres de luxe, la justice passe et elle est impitoyable. On saisit, on détruit. J'ai le cas relativement récent d'un garçon qui faisait des faux monochromes de Klein. Arrêté par la police, qui fait dans ce cas-là remarquablement bien son boulot. Je veux dire que l'OCBC, ils m'ont impressionné. Ils font très très bien leur travail. Conduit devant le juge et le procureur, c'est-à-dire l'homme qui représente la République, qui dit il n'y a pas trouble à l'ordre public. Nous ne poursuivons pas.
Alors qu'un sac ou une montre...
Alors on mettait les faussaires de fausses monnaies à bouillir au Moyen-Âge. Bon, sur les billets, autrefois, il était marqué qu'ils étaient condamnés à perpétuité. Et un sac, c'est une horreur si on vous vend des faux sacs machin choson sur les quais de Venise. Mais non, un tableau, c'est pas grave. Ça fait même plutôt rêver. Tiens, ils ont trompé les experts. Ben oui. Et c'est bien ? Ben non.
Vous avez votre réponse, Lucille ?
Dur.
Dur. Bon, écoutez, on risque de devoir reparler de ces questions-là, mais oui, question annexe, ces chaises sont toujours à Versailles ? Ou est-ce qu'on les a passées sous un bulldozer, comme on le fait pour les montres contrefaites ?
Il n'est pas question de les passer sous un bulldozer avant que l'enquête déclenchée par Madame la Ministre n'ait trouvé ses conclusions.
Bon, elles sont dans une remise.
Tous avec impatience.
Ouais.
Oui.
Elles ne sont pas au vu du public.
Alors là, je suis bien incapable de vous répondre. Mais j'avoue que ce serait élégant que de les laisser.
Ah bon ? Bon, on ira faire un tour du côté de Versailles. Hein, une fois, on ira à l'Opéra Royal, c'est le combo, pour aller voir si les chaises sont toujours là. Il est temps de découvrir les recommandations des critiques ici présents ce soir. On reste d'abord dans le sud, on était à Saint-Paul-de-Vence. On va à Moinsartou avec vous, à Ribélé, toujours près de la Grande Bleue.
C'est juste à côté.
C'est pas très loin.
C'est juste à côté. C'est le centre d'art concret qui avait été créé à l'époque où le ministère travaille bien.
Tout le monde vous a entendu.
Oui, j'espère bien. À l'époque où le ministère travaillait bien, ça n'a pas été facile. C'était une initiative privée d'un artiste suisse qui s'appelait Gottfried Lenneger, qu'on a eu l'occasion, je crois, de saluer ici, et de son épouse, Sybille Albers. Et ils avaient une très belle collection d'art géométrique, abstrait géométrique, et ils ont essayé de quoi que suisse de la donner à la France, ce qui a été fait non sans péripéties. Et là, je crois qu'il faut aussi saluer, j'aime bien saluer, Guillaume Salem, sans qui ça aurait pas été possible, qui avait été à un moment donné délégué aux arts plastiques. Mais bon, bref, l'endroit existe encore et j'espère pour longtemps. C'est un très joli endroit, presque aussi joli que la Fondation Mac, mais plus modeste. Et on y expose en ce moment les tout premiers travaux de Bernard Venet. Alors Bernard Venet, je sais qu'il est détesté
par
tout le monde, mais par tout le monde, mais commencé par les institutions françaises. Je veux dire, on a un artiste, mais
c'était des faux qu'il y avait à Versailles de
non,
Bernard Venet,
c'était des vrais. Je l'ai vu lui-même les installer.
Bon, oui, alors il est pas,
vrais,
Bernard pas si détesté que ça.
Mais attendez, Versailles, c'est très chouette de pouvoir mettre des sculptures sur les pelouses. Mais c'est quand sa rétrospective à Beaubourg ?
Bah, demandez.
Non, on va commencer à faire celle de César.
Demandez à Bernard Blisten et à
Saint-Vasmin. On va faire celle de César dans pas longtemps. C'est vrai que...
Vous voyez qu'il a de la marge.
Venez peu à temps. Voilà. On a fait celle d'Armand, c'était bien. Et puis Venez était un ami d'Armand. C'était tous des Niçois. Voilà. Et l'exposition termine précisément au moment où lui commence d'une certaine façon, c'est-à-dire au moment où il part aux États-Unis, où il va s'installer chez Armand, un temps avant de s'installer chez lui, longtemps. Et ce qui est très fascinant, 61-66, c'est, en fait, ce type a immédiatement, très jeune, il a pas 20 ans, une intuition de ce que va être un truc qui n'existe pas encore, qui est l'art conceptuel. Mais vraiment, c'est spectaculaire. Quand on regarde après les dates, quand il arrive aux États-Unis et qu'il se confronte à ce que va devenir l'art conceptuel, on se rend compte qu'il a fait ça avant machin, ceci avant bidule, etc. Et surtout qu'il a pensé à le documenter. Ça commence. Bernard venait de Tarascon. Ça commence à la caserne de Tarascon, où il est cantonné en attendant de partir en Algérie, comme beaucoup de jeunes gens le faisaient à l'époque, et où il voit des choses, il voit un coulée de bitume sur une falaise qu'un industriel indélicat a balancé sans trop faire attention. Il fait tout de suite venir un copain qui fait des photos. Il va commencer à travailler avec le goudron. Il fait tout de suite, là aussi, documenter la chose. Il va imaginer, avant beaucoup d'autres gens, de faire un tas au sol, un tas de charbon, en l'occurrence. Pareil, il documente. Ce garçon, il n'a pas 20 ans. Il vient d'un milieu très populaire. Il m'avait dit un jour, je me suis rendu compte que si j'étais parti, c'était l'usine, quoi. Mmh. Mais l'usine en vrai, s'il avait de la chance. Et il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à faire, peut-être beaucoup aidé par le milieu niçois de l'époque. Je parle du milieu artistique, bien sûr. Ben, notamment, qui va toujours le stimuler, qui va toujours... par exemple, quand il fait ses grands tableaux noirs en goudron, Ben, en bon camarade, lui amène une revue américaine où on voit des tableaux de noirs de Ad Reinhardt. On dit, tu vois, ah, bon, il arrête de faire les tableaux noirs. Mais voilà, il y a cette espèce de stimulation extraordinaire qui n'a existé, j'imagine, que pendant quelques années à Nice, et qui, dans son cas, voilà, on a là le tout début de la carrière d'un artiste dont je pense qu'un jour, même le Centre Pompidou prendra la mesure, mais qu'il faut absolument pas rater parce qu'on comprend comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui et c'est plutôt bien.
Et puis pour rester dans le sud, on peut aller visiter sur rendez-vous un domaine où des sculptures de Bernard Venet sont présentes.
C'est plus dans quel... Lui.
Le Muy,
le
Muy,
c'est sa maison.
Voilà, mais c'est on peut y
moulin.
Aller.
Oui, bien sûr. C'est un moulin qu'il a acheté il y a quelques temps. Enfin, pas avec les tableaux de goudron, hein, avec les grandes sculptures. Ouais. Il a pu se payer ça.
C'est dans le Var, me semble-t-il.
C'est à côté de Saint-Tropez. C'est un peu à l'intérieur des terres. Un endroit qui se développe beaucoup du point de vue artistique, au point d'ailleurs que je me demande si l'intérêt des gens va pas se déplacer de la région de Nice à la région de Saint-Tropez, du Muy, parce qu'il y a plusieurs domaines viticoles qui commencent à installer des sculptures sur site aussi, et ça va jusqu'à la région d'Aix-en-Provence, où il y a un domaine étonnant créé par un Irlandais, qui collectionne pas que des sculptures, il collectionne aussi des architectures, 3 des 4 bâtiments de Tadao en France. Tadao, c'est chez lui. Mais bon, Bernard Venet, il a cet endroit où il a installé ses œuvres, certes, mais aussi celles des copains. Et il fait chaque année une exposition qui est en général, j'ai pas vu la dernière, malheureusement, mais qui est en général plutôt bienvenue.
Voilà, où on peut se rendre. Pour l'heure, se rendre à.
On doit se rendre.
À l'espace de l'art concret à Montsartou, c'est jusqu'au 13 novembre, cette exposition des origines 61-66 de Bernard Venet. On va parler du Mexique dans quelques minutes, avant cela, un détour par Séoul avec Frédéric Bonnet.
Oui, je suis allé voir la Biennale de Gwangju que j'ai pas du tout aimé, mais heureusement j'ai passé quelques jours à Séoul.
Ça valait pas celle de Sao Paulo.
Ah non, celle de Sao Paulo était formidable, comme j'ai eu l'occasion de le dire, celle de Gwangju était très 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 ratée.
Bon, voilà.
Mais Séoul est une ville avec des tas de richesses et des tas de musées surtout. Enfin, il y a une scène très très vivace et découverte d'un artiste qui m'est complètement échappé, qui est pas particulièrement jeune. Il est né en 1947, donc c'est pas un tout petit jeune. Mais alors j'en avais jamais entendu parler. Qui s'appelle Kim Yong Ik, auquel le Ilmin Museum of Art consacre une rétrospective sur 3 niveaux. C'est pas des salles immenses, mais bon, il y a quand même 3 niveaux. Et ça a un peu été la claque parce que Cet artiste commence à travailler en 1974 dans la mouvance du désormais fameux mouvement d'un ne sait quoi coréen. Il commence par des œuvres très élégantes de frottement sur des toiles de lin, en gardant les traces qui restent. Voilà, c'est très joli, mais ça révolutionne quand même pas la science, mais c'est très très beau. Et par contre, alors il développe progressivement tout un travail qui tient à l'ordre et à la perturbation et comment les deux peuvent se combiner. Et il avance vers la peinture. Il se fixe dans la peinture un motif essentiel qui est le cercle. Parfait, mais le cercle en fait va venir perturber le travail d'abstraction qui est du désordre. Donc il y a toute une dialectique où il vient mettre de l'ordre dans le désordre, mais finalement remet plus de désordre que ce qu'il y a. Bon, et c'est absolument passionnant. Son travail pictural des années 90 est phénoménal. Donc c'est ces tableaux, des grands tableaux à base de cercles et à base de d'expressionnisme abstrait, tout ça combiné. Et le plus bluffant, c'est le travail récent, à partir du début des années 2000, où, alors je sais pas quelle est la religion de Kim Jong-il, ça m'étonnerait pas d'apprendre qu'il est bouddhiste, parce qu'il y a quelque chose dans son travail, beaucoup du réemploi, d'assumer le temps, et donc on n'est pas loin d'une certaine idée de la réincarnation. Il y a, sur un tableau des années 90, par exemple, qui était un petit peu taché, machin, il cherche pas à aller cacher la misère, comme on dit, ou à le restaurer. Il écrit au contraire au crayon, voilà comment ressort de l'atelier un tableau qui n'avait pas bougé depuis 20 ans. Donc on assume parfaitement le temps qui passe, on va surtout pas... Et il arrive au début des années 2000 à un moment où il se dit que le monde va très très mal. Il a fait le tour de beaucoup de ses questionnements artistiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend ses propres tableaux, ses propres œuvres. Il les met dans des caisses et il en fait des cercueils. Et donc, il organise l'enfouissement de son propre travail dans des œuvres qui sont absolument magistrales, dans lesquelles il va rajouter des films transparents, sur lesquels il va écrire des textes, sur lesquels il va dessiner encore. Donc, on a les tableaux anciens qui apparaissent. J'ai trouvé ce travail absolument magistral.
Voilà. Il va falloir organiser une exposition au Centre Pompidou ou ailleurs de Kim Jong-il. Que vous avez vu donc au Ilmin Museum of Art de Séoul. Cette exposition y est visible jusqu'au 6 novembre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant au Grand Palais pour y découvrir une exposition qui m'a réjoui. Mais aussi laisser perplexe, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je parlais de Mexique, 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco et les avant-gardes, dont le commissaire est Agustín Arteaga, qui était jusqu'au 31 août dernier directeur du Musée National d'Art du Mexique, qui est dorénavant, donc depuis le 1er septembre, directeur du Musée d'Art de Dallas.
Amame, y olvídame, que nuestro amor está preso en el alma, sin decirnos nada, con la mirada, porque no puede ser. Ámame y déjame, no digas más, lo nuestro es el silencio. Querido, porque no puede ser.
Alors, je ne sais pas pour Harry Bellet, mais je sais, Frédéric Bonnet, vous connaissez bien le Mexique et l'art du Mexique. Donc, je suis particulièrement curieux de découvrir vos impressions premières sur cette exposition. Mais Harry, rassurez-vous, je suis toujours curieux de connaître toutes vos impressions sur tout sujet. Je viens vers vous dans un instant. Frédéric, cette exposition Mexique au Grand Palais.
Moi aussi, je l'ai trouvé plutôt réussi, même s'il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangé. Mais ce qui est formidable en premier lieu, c'est qu'on a quand même enfin montré ici à Paris que l'art mexicain de la première moitié du XXe siècle, c'est autre chose que seulement Diego Rivera et Frida Kahlo.
Même s'ils sont dans le sous-titre de l'exposition pour attirer le chaland.
Non, il faut attirer le chaland, voilà, c'est ça.
Hein,
il faut faire.
Il y en a. Hein.
Non, mais bon. Et il y en a, et de toute façon, il n'est pas question de remettre en cause ni leur talent, ni leur importance, ni leur influence.
Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est un problème.
Mais voilà, il n'y a pas que ça.
C'est quelle forêt ?
Bah oui, la forêt, elle est touffue.
Wow.
Elle est très très dense. Le Mexique est un pays plein de surprises. Donc non, cette exposition, elle a vraiment ce mérite-là d'ouvrir vraiment le champ sur beaucoup d'autres personnalités que les traditionnelles têtes de gondole qui sont toujours mises en avant. Et ce qui est assez bien joué, c'est qu'elle parvient à montrer que l'art mexicain, encore une fois, c'est pas simplement un objet un peu folklorique, plein de couleurs, c'est facile, c'est joli, c'est des formes un peu simples, de la couleur. Hein. On va quand même un peu plus loin que ça. Et ce qui est assez réussi, c'est de montrer que il s'agit d'une esthétique hybride qui se constitue à la croisée d'une tradition locale. Et de la modernité européenne, parce que Rivera et beaucoup d'autres sont venus se former en Europe au début du XXe siècle. Évidemment, ils ont bien intégré tout ce qui s'était passé. Ils sont retournés au Mexique et tout ça mélangé donne naissance à des formes qui sont peu communes et en tout cas qui sont véritablement une esthétique à part. C'est d'ailleurs très bien et très intéressant soit venu ce très très beau tableau. Alors, il y a des très beaux tableaux qui ont fait le voyage. Vraiment, il y a une qualité des œuvres qui est assez exceptionnelle. Mais justement, pour introduire cette esthétique hybride, dès la deuxième ou la troisième salle, il y a ce double tableau de Rivera. D'un côté, La femme au puits, 1913. De l'autre côté, Un paysage zapatiste, 1915. Et le paysage zapatiste, c'est du motif mexicain, mais véritablement inspiré complètement par le cubisme européen et la remise à plat complète du motif. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'on insiste bien sur le fait que cet art mexicain, c'est un art du métissage, et pas seulement à partir du XXe siècle, mais beaucoup au XXe siècle, on va chercher à créer un langage national quelque part. Mais si on remonte un petit peu dans l'histoire, ce que font les artistes du XIXe siècle et même du XVIIIe, quand s'invente le motif de la Vierge de Guadeloupe, qui est le motif essentiel de la Vierge au Mexique, c'est d'intégrer de l'imagerie indigène à la représentation religieuse catholique venue d'Europe. C'est d'entrer, de commencer à pervertir le modèle qu'on leur a imposé, parce que la conquête, évidemment, a quand même été d'une violence assez phénoménale. Et donc, il y a vraiment cette histoire de métissage et d'une culture des stéréotypes issus du métissage qui est un des fondements de ce travail et qui va montrer quand même beaucoup de formes issues du régionalisme, d'une exaltation du passé préhispanique, une manière de cristalliser la grandeur de la nation dans laquelle vont s'engouffrer les muralistes, parce que le muralisme, c'est un projet politique issu de la Révolution. Et à partir duquel il faut créer, justement, une fois qu'on a réussi à éjecter Porfirio Díaz après 25 ou 30 ans de pouvoir, je ne sais plus, et après la Révolution, d'essayer de créer un nouveau langage national.
Je reviens vers vous, Frédéric. Mais alors, Henri Bellet, votre rapport au Mexique et à cette exposition plus particulièrement ?
Je connais un peu le Mexique, mais beaucoup moins bien que Frédéric. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller aussi souvent que lui, mais ça m'a toujours fasciné, effectivement, ce métissage. Ça m'a fasciné aussi, encore aujourd'hui, les artistes contemporains sont restés dans la tradition d'un art politique. La révolution dont parlait Frédéric, elle a lieu en 1921, et elle met au pouvoir un certain nombre de gens, et qui nomme un type qui est le Malraux de l'époque, mais en 1921, qui s'appelle José Vasconcelos. Et Vasconcelos va être secrétaire d'État à l'éducation publique, et c'est lui qui va encourager le muralisme parce qu'il pense que l'art doit être public, l'art doit être à la portée du plus grand nombre, même des peones. Et c'est ce qui va effectivement permettre à Siqueiros, qui permettre à Orozco surtout, et puis à certains autres dont on ne parlera plus parce qu'on en parle beaucoup trop, d'exprimer leur talent. Non, ce qui est formidable avec cette exposition, précisément, et là je rejoins tout à fait Frédéric, c'est qu'on sort des sentiers battus, on nous en montre un paquet qu'on connaissait mal ou pas du tout, et qui sont fascinants. Et puis on voit aussi à quel point le Mexique a été attirant pour les autres. Une des plus... Il y a un Français qui vient, j'oublie son nom, mais un Français qui vient dès les années 20.
Charlot,
oui. Et qui va travailler avec les muralistes. Mais il y a aussi Tina Modotti qui vient d'Italie. Il y a aussi Artaud qui va accueillir les champignons. André Breton qui va venir aussi.
Michaud, bien sûr. Enfin, beaucoup de gens qui sont venus au Mexique dans ces années-là.
Luis Buñuel.
Henri Cartier-Bresson.
Buñuel va y aller aussi pour tourner. Enfin, vraiment, le Mexique attire énormément de gens. Leonora Carrington va s'y installer. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'art abstrait américain d'après la Deuxième Guerre mondiale, il doit beaucoup aux muralistes mexicains. Siqueiros était venu installer une école à New York où il y avait un petit gars qui s'appelait Jackson Pollock qui l'a appris à faire les drippings. Il faut se rappeler de tout ça. C'est pas un art seulement national, c'est un art international à l'échelle d'un demi-continent, enfin, pas tout à fait, mais presque. Et avec ce côté métissage qui est extraordinaire, qui effectivement remonte aux Indiens d'un côté, mais va chez des gens aussi sophistiqués que des surréalistes allemands de l'autre.
Alors, ce qui est très réjouissant, en effet, ce que je disais en ouverture, c'est que de se retrouver face à autant d'œuvres assez formidables, de tant de gens que moi je ne connaissais absolument pas pour la plupart. Donc ça c'est vraiment très 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 heureux, avec une place importante pour la statuaire aussi, qui a vraiment une fonction très 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 particulière, des œuvres très fortes. Moi j'ai noté par exemple le boucher de Matthias Goeritz, qui est une toute petite chose mais d'une force, d'une violence, d'une densité extrême, ou des beaucoup de peintures aussi comme cette footballeuse qui est quasiment dans la première salle, deuxième salle d'Angel Saraga, qui est extrêmement étonnante aussi. Ce qui m'a laissé perplexe, vous pourrez aussi citer évidemment quelques œuvres qui vous ont retenu, c'est l'accrochage de l'exposition par moments fonctionne par ensemble monographique, pour l'essentiel par moments thématiques, des thématiques qui sont parfois discutables, celle consacrée aux femmes fortes à l'étage, qui est quand même un peu étrange, avec des œuvres qui ne sont pas toujours... je ne sais pas, si vous allez pouvoir me l'expliquer, je n'ai pas compris. Parce qu'il y a notamment des œuvres qui ne sont pas toutes, pour le coup, aussi formidables. Des articles qu'on retrouve d'un endroit à un autre sans être tout à fait sûr de comprendre pourquoi. Un peu de confusion, alors que mon sentiment, moi qui connaissais si peu, c'est que cette exposition aurait dû avoir une pédagogie un peu plus grande, en tout cas à mon goût. Alors peut-être quand on s'y connaît bien, on s'y retrouve, Frédéric Bonnet, mais pour moi, c'était pas très clair et très lisible.
Non.
À part l'émerveillement de salle en salle de voir autant d'œuvres fortes.
Non, on s'y retrouve pas forcément, et c'est justement là où l'exposition pêche un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont assez lâches. Par exemple, j'ai trouvé assez décevante l'avant-dernière salle dédiée aux ouvertures justement vers les États-Unis.
De toute façon, l'étage, c'est déjà moins bien que le rez-de-chaussée.
Exactement. L'étage est beaucoup moins tenu dans l'accrochage que le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est assez cohérent, homogène. L'étage est beaucoup plus relâché, même si moi j'ai trouvé intéressante cette salle consacrée aux femmes, parce que j'ai trouvé que c'était bienvenu de montrer que il y avait aussi des femmes dans un pays aussi machiste que le Mexique.
Il y en a beaucoup d'ailleurs.
Il y a énormément de femmes avec je vais quand même la rementionner, mais parce que ce tableau, moi je l'avais jamais vu, de Frida Kahlo habillée en costume d'homme avec les cheveux coupés courts, ça c'est quand même un tableau extrêmement fort. Mais on y voit Maria Izquierdo, qui est une artiste absolument essentielle de cette histoire de l'art mexicain. Moi il y a quelques manques aussi qui m'ont gêné, surtout Dr. Rattle, Gerardo Murillo, qui est quand même l'artiste qui a redéfini les codes, la figuration, l'image du paysage mexicain au début du XXe siècle, qui est présent avec un tableau abstrait, pas mal du tout d'ailleurs, et des petites gravures de formes géométriques, mais c'est quand même le type qui a redéfini le paysage mexicain. Et il n'y a pas un tableau de paysage de Dr. Rattle. Et d'ailleurs, je trouve que la thématique du paysage aurait dû être abordée en tant que telle, parce qu'elle fait complètement partie de cette histoire et de ce fondement de la nation mexicaine également. Donc ça m'a un petit peu chiffonné.
Harry, encore quelques mots, Ribéné.
Oui, je voulais revenir encore sur les États-Unis, parce que c'est une chose qu'on apprend en lisant le catalogue, ou si on l'ignorait, ce qui était mon cas d'ailleurs, je dois l'avouer, c'est le programme de Vasconcelos qui a inspiré le WPA de Roosevelt. Les artistes américains ont été payés par le gouvernement américain pendant la grande crise de 1929, parce qu'il y avait eu ça au Mexique. Mais il faut quand même pas se limiter à ça. Je crois que la difficulté de cette exposition vient aussi à la difficulté du sujet. Le Mexique, c'est très compliqué, c'est très vaste, c'est très bouillonnant. Et je voulais signaler le livre de Christine Frérot, qui est une, à mon avis, une des meilleures connaisseuses du Mexique. Les fictions mexicaines, c'est publié aux éditions Rive-Neuve. Elle a fait sa thèse là-dessus il y a maintenant un certain temps. Elle a fait 5 bouquins sur le Mexique, et même elle s'en sort pas, parce que elle fait des chapitres qui s'appellent exubérant, héroïque, métis, patriote et révolutionnaire, urbain. C'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver vraiment des définitions pour tous ces mouvements qui ont eu lieu. Et ça, c'est
vraiment... Non, mais c'est une ambition folle de faire une exposition sur 50 ans d'art au Mexique. Moi, j'ai un coup de cœur pour Naoi Olin. Je sais pas quelle place il ou elle occupe, même pas elle, ça. Elle. C'est elle, hein. Il me semble bien que c'était une femme, mais j'étais pas tout à fait sûr.
C'était justement la maîtresse de Dr. Rattle.
Ah bon, bah écoutez, il y a quelques toiles qui m'ont fait forte impression. La dernière note que vous venez de prendre.
Non, je voulais noter les références.
Ah, les références du livre. Oui. Fiction mexicaine. Bon, bah, je donne d'autres références aussi pour dire que cette exposition très riche, vraiment, Mexique, 1950, est au Grand Palais jusqu'au 23 janvier, qu'elle mérite grandement une ou plusieurs visites. Et puis, en plus de ce livre, il y a un très beau catalogue pour passer plus de temps aussi à découvrir les artistes, qui est édité par la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Concluons par le jeu de la dispute. Lucille Comeau, un rappel d'abord du jeu d'hier soir.
Alors la question était la suivante. Après la sortie de Hors-jeu, les autorités iraniennes interdisent à Jafar Panahi d'exercer ses activités de cinéaste. Quel est le premier film qu'il fera malgré cette interdiction? Réponse, ceci n'est pas un film.
On reste dans le cinéma ce soir avec des places à gagner pour le film Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. La question, Lucine.
Alors Bertrand Tavernier a réalisé en 2009 un film aux États-Unis dans la brume électrique, dont le héros interprété par Tommy Lee Jones est le héros récurrent des romans de James Lee Burke. Comment s'appelle-t-il?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Frédéric Bonnet, Harry Bellé, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sont sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel on peut également s'abonner au podcast de cette émission, et puis podcast aussi à part pour Le Petit Salon. Merci à l'équipe qui prépare cette émission, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pino. Merci à Philippe Brodin qui a assuré ce soir la prise de son, et merci à Daniel Finot qui l'a réalisé. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie d'Olivier Lam et Joseph Gosn. À notre affiche, Everywhere at the End of the Time de The Caretaker, Row from Seat to Earth de Weyes Blood, et Retiens mon désir de Cléa Vincent. C'est le programme de demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.